livres consacrés au pape Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale constituent régulièrement des succès de librairie. En revanche, ceux étudiant les rapports entre l'Église et le communisme sont malheureusement plus rares. Ils n'en sont pas moins dénués d'intérêt. Enfin, à notre connaissance, il n'existe aucun ouvrage abordant l'action du Saint-Siège face au totalitarisme du XXe siècle dans leur ensemble. En effet, pendant très longtemps, mettre sur le même pied d'égalité le génocide des races et le génocide des classes provoquait une levée de bouclier du politiquement correct. L'icône du communisme était en effet intouchable. Pourtant, on ne dira jamais assez que communisme et nazisme, ces religions séculières, comme les appelait Raymond Aron, possédaient les mêmes racines idéologiques. Ils avaient aussi en commun la haine du catholicisme. Storia Voce vous propose aujourd'hui de comprendre et d'analyser l'action du Vatican, on devrait dire plus exactement du Saint-Siège, face aux dictatures totalitaires de 1917, la Révolution russe, à 1989, la chute du mur de Berlin. Une approche globale, certes, une approche sur le temps long, mais où tout l'art de l'historien est de se replacer dans le contexte de l'époque. Frédéric Lemoal, bonjour.
Bonjour Christophe Dickès.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour aussi à tous nos auditeurs à qui je souhaite la bienvenue pour ce nouveau numéro des grands entretiens de Storia Voce. Alors Frédéric Lemoal, vous êtes docteur en histoire, vous avez travaillé sous la direction d'un professeur que je connais très bien, Georges-Henri Soutou, contemporanéiste, spécialiste de la Grande Guerre et de la Guerre froide. Vous êtes, vous, spécialiste aussi des relations internationales, auteur de plusieurs ouvrages, notamment une biographie du roi d'Italie, Victor Emmanuel III, et vous enseignez au lycée militaire de Saint-Cyr et à l'Institut Albert le Grand. Et vous venez de publier donc un ouvrage dont l'approche est vraiment inédite. C'est une approche des totalitarismes du XXe siècle dans leur ensemble face à, non pas l'Église, mais parce qu'il faut distinguer l'Église et le Saint-Siège, donc le totalitarisme face au Saint-Siège. C'est un livre qui s'intitule « Les divisions du pape, le Vatican face aux dictatures » aux éditions Perrin. Parler d'un tel sujet, c'est obligatoirement se situer, j'allais dire, dans deux camps. Il y a un camp qui reproche les silences, le camp plutôt à gauche qui reproche les silences d'un Pie XII par rapport vis-à-vis du nazisme ou bien ou la compromission d'un Pie XI avec le fascisme, et de l'autre une vision plus à droite qui est que l'on reproche par exemple à un Paul VI son rapprochement avec les communistes, je dis bien les communistes et non pas l'idéologie communiste. Il y a une différence. Vous avez essayé de sortir de ces deux camps.
Oui, c'était vraiment un de mes objectifs prioritaires en écrivant ce livre. Tout d'abord, j'ai constaté en fait que ce livre manquait une synthèse. Il nous manquait une synthèse sur la diplomatie du Vatican par rapport dans ses rapports avec les États totalitaires, parce que comme vous l'avez dit, les regards se concentrent évidemment toujours sur la Seconde Guerre mondiale, sur la question Pie XII, le positionnement du Saint-Siège par rapport au nazisme, par rapport à la Shoah. Et on met de côté en fait des pans entiers de l'histoire et de la diplomatie du Saint-Siège. Or, en réalité, tous ces problèmes sont liés. Le problème des rapports avec l'Allemagne, avec le Troisième Reich, cette question est liée au rapport avec l'Italie fasciste et sont également liés avec la question des rapports avec l'Union soviétique. Donc, j'avais l'impression qu'il fallait vraiment une synthèse pour essayer de comprendre sur le long terme comment la diplomatie pontificale avait-elle évolué de 1917 à 1989, en essayant de sortir, si vous voulez, un peu du cadre un peu étroit, même s'il est fondamental, de la question avec les nazis. Ensuite, effectivement, le devoir de l'historien, c'est d'être le plus scientifique possible, le plus neutre possible. J'espère l'avoir été dans cet ouvrage, en me plaçant un peu au-dessus des passions et surtout en faisant ce que normalement tout historien devrait faire, c'est se replacer dans le contexte. Il faut essayer constamment de comprendre les personnages que nous étudions, l'environnement qui a été le leur, l'époque qui a été la leur, et puis aussi la manière dont ils voient le monde. Parce qu'on ne peut pas traiter la diplomatie du Saint-Siège comme n'importe quelle autre diplomatie. Bien sûr, c'est un État, mais il y a donc des diplomates qui travaillent pour le pape, mais ils travaillent surtout pour l'Église. Et donc c'est une diplomatie qui est imprégnée de religion. La diplomatie, c'est-à-dire la question politique, n'étant qu'un instrument au service de la religion et de la défense des intérêts du Saint-Siège. Mais cette histoire nous prouve aussi que rapidement, la papauté, tout en cherchant à défendre bien sûr les intérêts de l'Église et de défendre les catholiques, a cherché aussi à défendre une certaine vision de l'homme. C'est un combat anthropologique. La papauté a livré un combat anthropologique sur la nature même de l'homme, tel que l'imaginaient les communistes, tel que l'imaginaient les fascistes, tel que l'imaginaient les nationaux-socialistes.
La période est très importante. Le début du XXe siècle, il y a une tentative de retour de la diplomatie sur la scène mondiale de la papauté qui souhaite en quelque sorte prendre les habits d'une défense, d'une morale. C'est un peu le retour de ce qu'on a appelé le néo-thomisme. Cette morale, au fond, va gagner tout au long du XXe siècle. Cette perception de cette force morale que va constituer la papauté, après l'échec du communisme, enfin d'abord après l'échec du fascisme, puis ensuite l'échec du nazisme et enfin l'échec du communisme, finalement cette perception morale va sortir gagnante alors qu'elle commence le XXe siècle affaiblie.
Bien sûr, la papauté a connu un choc terrible avec la prise de Rome le 20 septembre 1870 par les troupes du roi d'Italie Victor Emmanuel II qui achève ainsi l'unité italienne et qui font de Rome la capitale de l'État italien. À ce moment-là, la papauté perd définitivement ses États, ce qu'on appelait les États pontificaux, qu'elle avait déjà perdu dans une première étape en 1860-61, et la prise de Rome en 1870 achève, en quelque sorte, consacre la disparition des États pontificaux. Alors, de ce choc, la papauté a su faire une force. Pourquoi ? Parce que, ainsi, le Saint-Siège a cessé d'être un État parmi d'autres, a cessé d'être un État au milieu de ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté internationale, c'est-à-dire un État qui joue le jeu de la diplomatie et des relations internationales. Et du coup, notamment avec le pontificat de Léon XIII, la papauté a investi le champ de l'arbitrage, le champ moral, en se plaçant au-dessus des États, ce qui lui a donné de plus en plus une crédibilité qu'elle n'avait pas forcément autrefois. Je rappelle que tout au long de son histoire, le pape, les différents papes ont connu, je ne vais pas vous l'apprendre, des grandes vicissitudes. Il y a eu des papes qui ont été emprisonnés, un pape même qui a été giflé. Or, même un homme comme Hitler n'a pas osé faire cela. Malgré la tentation qui était la sienne, il n'a pas osé donner l'ordre en 1943 d'envahir le Vatican et de s'emparer de la personne du pape et de le déporter en Allemagne.
Pourtant, Pie XII prévoit cette possibilité malgré tout et il dit même, ce qu'on appelle le siège empêché, c'est à partir du moment où le siège empêché, le pape n'est plus pape, il redevient cardinal et donc les cardinaux ont obligation de se réunir pour élire un nouveau pape ailleurs, exactement comme à l'époque d'Avignon.
Exactement. La crainte a été réelle à ce moment-là, en septembre 1943, lorsque les armées allemandes se sont emparées de Rome. La crainte était réelle, en effet, d'une invasion du Vatican, qui aurait été l'affaire de 5 minutes, hein, pour les troupes aguerries, c'était terminé. Des documents ont été cachés à l'intérieur des palais apostoliques. Donc on s'attendait vraiment à cette invasion. Et en effet, comme vous le dites, Pie XII avait mis en place des règles qui auraient permis à l'Église et à la papauté de poursuivre sa mission. Mais Hitler ne l'a pas fait parce que la papauté avait à ce moment-là acquis un prestige moral qui fait que s'emparer de la personne du pape aurait eu des conséquences absolument considérables en Europe auprès des neutres, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne, et puis auprès des catholiques allemands. Et donc Hitler n'a pas osé franchir ce pas.
Alors, Je débutais cette émission en parlant du début du XXe siècle jusqu'à 1989. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, la période est large, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans votre introduction et qui montre toute la complexité des faits. Je vous cite, « Notre ambition, écrivez-vous, est donc de proposer une première analyse globale sur l'ensemble de la période pour mieux en dégager les permanences, les ruptures, les hésitations, les fautes, les succès et les échecs. » C'est-à-dire, on ne peut pas aborder une telle histoire de manière binaire.
Non. Et le problème, c'est qu'on a, c'est toujours cette approche qui domine. C'est un grand problème de notre temps, sur des questions aussi complexes, c'est d'avoir une vision extrêmement manichéenne des choses. Alors, ça vient aussi un peu de la nature, je pense, aussi de la Seconde Guerre mondiale et du combat un peu global des grandes idéologies du XXe siècle, parce que c'est un combat entre le bien et le mal. Et donc, cette approche manichéenne, idéologique, eh bien, pèse sur les visions que l'on a de cette période. La papauté est successivement accusée d'avoir eh bien, soit été pro-fasciste, pro-nazi, pro-communiste. En réalité, les papes n'ont jamais été ni l'un ni l'autre, seulement ils se trouvaient devant une situation extrêmement difficile. Je crois que ce qui manque à beaucoup d'historiens, c'est un peu la modestie dans le jugement qu'ils portent. Il ne faut jamais oublier, et notre maître Georges-Henri Soutou le répétait très très souvent dans ses cours, ne jamais oublier que les hommes d'État que nous étudions parfois ont une guerre mondiale sur les bras et que les décisions qu'ils prennent, les paroles qu'ils prononcent peuvent avoir des conséquences absolument considérables. Et ça, évidemment, ça les pousse à une infinie prudence et un certain nombre de commentateurs, évidemment, qui sont facilement installés dans leur fauteuil, oublient un petit peu la dure réalité des temps. Alors, bien sûr, il y a eu des échecs. Il faut les dire, il faut les analyser. Il y a eu des succès, il faut aussi les analyser et les dire sans jeter l'opprobre sur les uns et sur les autres. L'historien n'est pas un procureur.
Vous commencez votre ouvrage en présentant justement tout cet axe entre le spirituel et le temporel, une présentation du Saint-Siège. Et puis après, vous définissez le totalitarisme. Et c'est important de définir le totalitarisme, surtout à une époque où c'était une force émergente, extrêmement difficile que de mesurer. C'est ce que disait très bien Alain Besançon. Ces bêtes-là sont difficiles à comprendre quand on vit l'époque. Mais de votre point de vue, la confrontation était en quelque sorte inévitable.
Oui, inévitable pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un combat frontal sur la nature de l'homme. Le totalitarisme communiste divise l'humanité en classes sociales. Le totalitarisme nazi divise l'humanité en races. Or, pour l'Église, aucune de ces divisions n'est valable. L'homme, créature divine, a un aspect, a une nature globale, et l'humanité ne peut pas être divisée en sous-races ou en sous-classes. Ensuite, les totalitarismes ont tous une ambition, c'est justement de faire un homme nouveau, de créer un homme nouveau, c'est une ambition qui leur vient de la Révolution française, hein, à tous les trois, et déjà la confrontation avait été très forte entre l'Église et la Révolution française. Et cette ambition de créer un homme nouveau, l'homme soviétique, l'homme communiste, l'homme nazi avec sa pureté raciale, l'homme fasciste, imprégné de la nation et de la patrie, eh bien, ce projet d'homme nouveau nécessite un contrôle total de l'individu. Et c'est ça la grande caractéristique des totalitarismes et qui les, en quelque sorte, différencie d'un simple régime autoritaire, comme pouvait l'être d'ailleurs l'Espagne de Franco, quoi qu'on en dise encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut prendre le contrôle total de la vie de l'individu, de sa naissance à sa mort, et il faut en effet l'éduquer, mais l'éduquer au vrai sens du terme, c'est-à-dire on ne se contente pas de l'instruire, mais on l'éduque. Et pour cela, il faut s'emparer de l'enfant le plus vite possible et enlever aux parents cette charge de l'éducation qui est la leur, cette mission de l'éducation qui est la leur. L'Église a toujours bien spécifié que les parents étaient les seuls éducateurs de leurs enfants. Et la confrontation sera très très dure avec l'Italie fasciste, avec l'Allemagne nazie, sur cette question de l'éducation des enfants. Et enfin, un troisième plan, c'est que dans le monde nouveau imaginé par les totalitarismes, l'Église n'a pas sa place, l'Église doit disparaître. Ces trois totalitarismes ont comme point commun d'être des mouvements révolutionnaires. Ils n'ont absolument rien à voir avec une sorte de mouvement de réaction. Hein. Benito Mussolini, c'était pas Joseph de Maistre, hein, absolument pas. Et donc, dans le monde nouveau qu'ils imaginent, l'Église n'a aucune place et elle doit disparaître. Il y a chez les trois, à différents degrés bien sûr, mais chez les trois, une volonté de contrôle par l'État ou par le parti. Et là, la confrontation est absolument inévitable puisque ça touche la mission et je dirais même l'essence même de l'Église.
Alors pourtant, c'est ce que vous écrivez, il y a des compromissions, je vous cite, « Quant au communisme, dites-vous, sa virulente condamnation n'empêchera ni des compromissions bien plus profondes que celles avec le fascisme ou le nazisme, ni des tentatives d'entente aussi bien dans les années 1920 que dans les années 1960. » J'en viens précisément à la chronologie. Ce qu'on a complètement oublié, c'est de voir qu'en 1917, quand la révolution russe commence, eh bien, l'Église qui était persécutée, l'Église catholique qui était persécutée par le régime des tsars, voit d'un œil positif cette révolution.
Alors la chute du tsarisme est vue d'une manière tout à fait positive. Comme vous l'avez dit, l'Église catholique n'avait eu qu'à se plaindre du tsarisme et de l'orthodoxie. On n'est pas en 1917 dans l'œcuménisme tel que nous le connaissons aujourd'hui, loin de là. Et puis la révolution bolchevique, voilà, n'est pas vue non plus avec un œil très, très inquiet. En effet, les deux événements laissent penser à Rome que, eh bien, s'ouvre devant le catholicisme une formidable opportunité de conversion des populations russes au catholicisme. La Russie peut devenir une terre de mission. Alors au début, bien sûr, en 1917, comme beaucoup de gens, je crois même que Jacques Babil pensait la même chose, le régime bolchevique est vu comme quelque chose de provisoire. C'est perçu à l'époque comme quelque chose de tellement abominable et inhumain que ça ne peut pas durer. Alors ça durera 80 ans, mais au début, on pouvait vraiment envisager que ça n'allait pas durer. Et une fois que le régime s'est consolidé, et puis finalement on a compris qu'il allait durer, ça n'a pas remis en cause les espoirs de conversion. Mais par contre, il fallait s'entendre. Avec le nouveau régime. Bon. Alors, dans un premier temps, ce nouveau régime, évidemment, considérait un siège comme une espèce de survivance surannée d'un passé qui allait disparaître. Et puis, là aussi, au bout de quelques années, notamment avec la pause de la NEP, mise en place par Lénine, la mise entre parenthèses de la construction du communisme, eh bien, l'idée de s'entendre, de rechercher des appuis à l'extérieur, et notamment du Saint-Siège, cette idée est apparue intéressante et on a eu, à partir de 1922, de la conférence de Gênes, des premiers contacts qui ont été mis en place entre les représentants du Saint-Siège et les représentants bolcheviques, et c'est allé jusqu'à des négociations très sérieuses, très très sérieuses, qui ont eu lieu au milieu des années 20, particulièrement dans l'année 1926, des négociations qui ont été menées secrètement à Berlin, par le nonce à Berlin, le futur Pie XII, Eugenio Pacelli, qui a mené ces négociations, bien qu'il fût un anticommuniste très, très très fort. Et la papauté, Pie XI, aurait été tout à fait d'accord pour signer un concordat avec le régime moscovite. Hein. Ça ne lui aurait pas posé de problème, comme il en a signé un avec Mussolini, comme il en a signé un avec Hitler.
Le concordat, ce n'est pas un gros mot, c'est un traité, au fond, avec un État et le Saint-Siège.
Exactement. Et qui fixe les droits et les devoirs des deux parties signataire, et le Saint-Siège a toujours insisté sur l'idée que ça ne valait pas reconnaissance. Ce n'est pas parce que le Saint-Siège signe un concordat avec un État qu'il reconnaît son idéologie, encore moins qu'il adhère à son idéologie. Et je serais même tenté de dire que plus le régime est dangereux pour l'Église, et plus la papauté veut signer un concordat. Parce que c'est un instrument juridique qui protège en tout cas est censé protéger les structures ecclésiastiques en place dans le pays en question. Même si on n'a pas beaucoup d'illusions, c'était le cas notamment avec le Concordat de 1933, Monseigneur Pacelli, qui le négocie en tant que cette fois-ci de secrétaire d'État, n'a pas beaucoup d'illusions sur ce que les nazis vont en faire. Mais au moins, ils ont un instrument juridique sur lequel s'appuyer et appuyer les protestations en cas de violation.
Alors dans ce tableau, hein, nous sommes pendant la guerre et peu après la guerre, il y a certes, c'est un dialogue, il y a la question du communisme, la position du Saint-Siège, mais il y a aussi les États-Unis qui commencent naturellement à émerger. Bainville disait, la guerre, on dit toujours que la guerre ne rapporte rien à personne, elle a apporté aux États-Unis la domination du monde. S'entendre avec les États-Unis est une chose importante et vous montrez très bien et vous rappelez que les prémices de l'entente de la papauté avec la démocratie américaine, c'est sous le pape Benoît XV.
En fait, les premiers rapports, effectivement, s'établissent à l'époque de la Première Guerre mondiale. Alors, c'est vrai que les relations sont très compliquées entre le Saint-Siège et les États-Unis. Les États-Unis... on le sait, la société américaine n'éprouve pas un amour débordant pour le catholicisme. C'est un État, c'est une société imprégnée de protestantisme et l'Église catholique leur apparaît vraiment comme l'expression de l'ancien monde, de la vieille Europe. L'atteinte au libre arbitre, la hiérarchie d'une Église vraiment très une hiérarchie très stricte. Et puis, un État, des catholiques qui obéissent à un chef qui est en dehors des États-Unis. Et c'est toujours posé la question du patriotisme des catholiques. Est-ce que ce sont de bons citoyens aux États-Unis, par rapport aux États-Unis, par rapport à l'État, par rapport à leur patrie ? Et très souvent, la réponse est non. Donc, il y a une véritable hostilité de l'âme américaine, si j'ose dire, par rapport à la papauté, qui d'ailleurs le lui rend bien, puisque la papauté, là non plus, n'est pas un grand défenseur du libéralisme politique et encore moins du libéralisme économique. Donc, on ne parlait pas du tout le même langage. Pourtant, pendant la Première Guerre mondiale, il y aurait pu avoir un grand rapprochement entre Wilson et Benoît XV, entre les États-Unis et la papauté, parce qu'ils avaient, les deux avaient quand même une vision assez convergente de la paix. Les deux cherchaient à promouvoir la paix, à une paix d'arbitrage, une paix qui essaierait de ne pas mettre en avant, de ne pas s'appuyer sur le nationalisme, sur l'esprit de revanche. Or, le rapprochement ne s'est pas fait, en grande partie à cause de Wilson, parce que Wilson n'avait pas du tout l'intention de partager les lauriers de la gloire avec Benoît XV. Enfin, il a quand même eu cette première rencontre en janvier 1919 entre un président américain et le pape, Benoît XV, qui n'a absolument rien donné. C'est une occasion manquée. Il faudra attendre 1959 et le président Eisenhower pour revoir un président américain venir au Saint-Siège. Mais à partir de lui, tous viendront jusqu'aux retentissantes rencontres entre Jean-Paul II et Ronald Reagan qui ont énormément compté dans l'histoire de la guerre froide.
Alors venons-en au fascisme. Et le fascisme, c'est bien évidemment une chose particulière. Le fascisme italien, c'est une chose particulière parce que le fascisme va entourer le petit État de la cité du Vatican. Pourtant, bien évidemment, on le sait, il va y avoir les accords du Latran. Le pape Pie XI va réussir à s'entendre et à donner une structure étatique au Saint-Siège. Mais avant de cela, vous rappelez très bien d'ailleurs que... Le fascisme est un anticléricalisme. Vous citez El Popolo d'Italia. Nous avons lacéré toutes les vérités révélées. Nous avons craché sur tous les dogmes, repoussé tous les paradis, chassé tous les charlatans qui mettent en commerce des drogues miraculeuses pour donner le bonheur au genre humain. Deux religions aujourd'hui se disputent le contrôle des esprits du monde, le noir et le rouge. Des deux, Vatican partent aujourd'hui les encycliques de celui de Rome et de celui de Moscou. Nous sommes les hérétiques de ces deux religions. On l'oublie, mais il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Le fascisme était d'une façon très virulente opposé à l'Église.
Bien sûr, c'est un mouvement. Le fascisme est un mouvement révolutionnaire issu de la gauche italienne, issu des courants socialistes, italien, héritier du Risorgimento, qui associe donc la Révolution et la Nation. Et il y a, dès le début, un anticléricalisme très fort, mais je dirais même un anticristianisme. Ça va beaucoup plus loin qu'un simple anticléricalisme. Ah, c'est vrai que Mussolini déteste les curés, il les appelle les microbes, les cafards, etc., qu'il faut écraser. Mais il y a en fait, derrière cet anticléricalisme, un anticristianisme, car c'est bien les valeurs du christianisme qui sont combattues. Le christianisme est accusé d'avoir corrompu l'âme italienne. La référence du fascisme, c'est le légionnaire romain, c'est la Rome antique, notamment la Rome républicaine. Et pour eux, eh bien, depuis que l'Italie est devenue chrétienne et catholique, eh bien, elle n'a fait que s'affaiblir. C'est une religion qui ramollit les âmes et les corps, et qui une religion qui est désormais indigne du nouvel italien que Mussolini veut créer. À côté de cela, il y a la réalité. Mussolini est un homme extrêmement pragmatique. Et il sait que son pays est imprégné de catholicisme. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de fasciser le catholicisme. C'est-à-dire qu'il va présenter le catholicisme comme, en quelque sorte, l'héritage de Rome, qu'il faut exploiter. Et son rêve, si vous voulez, ça serait de prendre le contrôle. Et tous les totalitarismes auront ce rêve. Et aujourd'hui, la Chine communiste a le même. C'est de prendre le contrôle de sa propre église, de l'église nationale, de la nationaliser, afin de la contrôler. Il sait aussi qu'il ne peut pas faire... Il a besoin du soutien de l'église. L'église est puissante en Italie. Elle est puissante de ses réseaux. Elle est puissante de son influence. Elle est puissante de la foi des fidèles. Et il sait qu'il ne peut pas faire sans elle. Le régime repose quand même sur le soutien que lui apporte la monarchie, que lui apporte le grand capital et que lui apporte également une église qui a vu avec effroi l'Italie sombrer dans le bolchevisme entre 1919 et 1920. Et le fascisme a été une réponse. Donc le fascisme a été bien accueilli par Pie XI en octobre 1922 comme une remise en ordre du pays. Et donc les deux, en fait, comprennent qu'ils ont intérêt à s'entendre. Parce que le fascisme remet de l'ordre dans le pays et protège l'Italie du bolchevisme, et Mussolini sait qu'il a besoin du soutien de l'Église. Donc, peu à peu, eh bien, la convergence va se faire, et à partir de 1926, eh bien, des négociations s'engagent entre les deux pouvoirs, des négociations très secrètes qui vont aboutir donc, au fameux accord du Latran de 1929 qui crée la Cité du Vatican. Mais en réalité, bien sûr, ces accords sont loués de tous les côtés, c'est magnifique. Pie XI dira Mussolini est l'homme de la Providence. Je ne sais pas s'il le croyait, mais en tout cas, il a utilisé l'expression. Mais en réalité, dès mai 1929, donc les accords sont de février, dès mai 1929, il y a une crise qui éclate entre les deux, parce qu'au moment de la ratification des accords, Mussolini a fait un discours à la Chambre des députés dans lequel il rappelait que l'Église n'était pas autonome en Italie et que l'éducation relevait de l'État et pas de l'Église. Et rapidement, des sbires fascistes vont s'attaquer. Ils l'avaient déjà fait avant, hein, lors de la prise du pouvoir. Hein. Mais rapidement, ils vont de nouveau s'attaquer aux associations catholiques, aux journaux catholiques. Et le pape va même protester officiellement dans une encyclique, 1931, Non abbiamo bisogno, qui est une encyclique donc rédigée en italien directement, donc consacrée au problème italien. Encyclique dans laquelle le pape condamne l'idolâtrie de la nation, l'hypernationalisme, la statolâtrie, car le fascisme fait de l'État le centre de tout et le contrôle de tout, et Mussolini est obligé de faire marche arrière, et à partir de 1931, il y a une sorte de modus vivendi qui se met entre les deux, qui s'installe entre les deux pouvoirs, qui va tenir jusqu'en 1938, lorsque Mussolini va approfondir l'alliance avec Hitler et qu'il va engager l'Italie dans l'alliance avec Hitler. Et il va notamment prendre des lois antisémites contre lesquelles Pie XI va jeter ses dernières forces. Et vraiment, en 1938, c'est l'année de la rupture, en fait, entre le fascisme et la papauté.
Alors, l'Allemagne, c'est un point très important par parce que on voit le nazisme, bien évidemment, donc 1933, mais précédemment, il y a une politique pro-allemande de la papauté qui est extrêmement importante. Et on peut d'ailleurs voir la condamnation de l'action française aussi comme une conséquence de cette politique pro-allemande.
Alors, la papauté a condamné les traités de 1919-1920, notamment le traité de Versailles. C'était pas du tout la paix telle que le pape l'imaginait. Le pape Benoît XV imaginait une paix de réconciliation. Or, j'enfonce une porte ouverte, hein, mais le traité de Versailles, c'est tout sauf une paix de réconciliation.
En fait, il rêvait une paix un peu comme le congrès de Vienne.
Paix d'équilibre.
Voilà, c'est-à-dire où tout le monde est autour de la table et tout le monde peut discuter et négocier. Or là, c'est un traité unilatéral.
Bien sûr, et extrêmement dur.
Trop dur pour ce qu'il a de doux, trop dur pour ce qu'il a de dur.
Selon la formule mythique, évidemment, de Jacques Bainville. Bien, la papauté... Voilà, est un peu sur la même ligne, un traité trop dur et une France revancharde, beaucoup trop revancharde, trop nationaliste pour la papauté. Et à partir de ce moment-là, effectivement, eh bien, la papauté prend la défense de l'Allemagne. Dans les années 20, surtout au début des années 20, lorsque vraiment les relations franco-allemandes sont très très dures, hein, avec notamment l'occupation de la Ruhr en 1923, la papauté prend clairement parti pour l'Allemagne. Il s'agit en fait de rééquilibrer les relations entre les deux pays et enfin d'obtenir la réconciliation. La politique française telle qu'elle est menée par Poincaré aux yeux de la papauté n'est pas la politique qui convient. Alors c'est vrai qu'on a souvent interprété la condamnation de l'action française comme une question aussi diplomatique, puisque l'action française était vent debout face aux accords de Locarno, qui justement opérait la réconciliation entre la France et l'Allemagne, opérée par Briand et Stresemann, et que la papauté a vraiment béni, si j'ose dire. Hein. Elle soutenait à fond les accords de Locarno.
En 1925.
25, et la condamnation arrive en 26. Alors, c'est surtout l'argument qui avait été avancé par l'action française, par Maurras, en disant « nous sommes condamnés parce qu'on critique Briand ». C'est une question qui est très discutée hein, par les spécialistes de l'action française. Il semblerait quand même que d'autres questions aient joué, des questions de fond sur la doctrine de l'action française, aient davantage joué plutôt que la question diplomatique en question.
Alors, je vais faire un petit bond en avant. Et je vais me situer. Donc, nous sommes en 1939. Pie XI meurt. Pie XII est élu. C'est comme Benoît XVI, une des élections les plus rapides de l'histoire de l'Église. Hein. Alors, généralement, un secrétaire d'État n'est jamais élu.
Non, c'est pas la tradition.
C'est pas la tradition. Un préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi non plus. Donc, Pie XII, Pacelli est élu. Et on reproche souvent, ou plutôt on a tendance à opposer les deux personnages. C'est-à-dire que Pie XI, c'est vrai qu'il y a deux Pie XI. Il y a un Pie XI d'avant 1937 et d'après 1937. Après 1937, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il jette ses dernières forces dans la bataille. Or, Pie XII, on a l'impression qu'il adopte une position plus diplomatique.
Alors, on les oppose toujours, le caractère n'est pas le même, ça c'est absolument évident. Le Pie XI est un pape très autoritaire, qui a des avis très tranchés, qui n'aime pas être contesté et qui n'a pas peur de la bataille. L'âge et la maladie n'ont rien arrangé. Mais en plus, il faut vous parler des deux Pie XI, effectivement, le Pie XI du début de pontificat et celui de la fin, mais aussi parce que la situation n'est pas la même. C'est-à-dire que la papauté, au début du pontificat, n'est pas agressée par les totalitarismes. On l'a vu avec les communistes, l'URSS. Le fascisme marche sur des œufs dans les premières années. Et Mussolini est allé jusqu'à se remarier à l'église pour faire plaisir au pape. Il est allé faire prendre la première communion à ses enfants. Bon, la ficelle est un peu grosse, hein, mais enfin, il a quand même fait des gestes. Bon. Et il n'y a pas encore le nazisme. Et même au début, en 1933, le nazisme est très prudent. Hitler est très très prudent dans ses rapports avec les églises, et notamment avec l'église catholique. Il fait un discours dès 1933 pour rassurer l'Église et la papauté. À la fin du pontificat, les totalitaristes ne sont plus les mêmes. Ils sont beaucoup plus agressifs. Et très agressifs.
D'où les deux condamnations.
D'où les deux condamnations, les deux fameuses encycliques de mars 1937. Et donc on a un Pionce vraiment qui, en effet, est dans la bataille. Son secrétaire d'État est un diplomate de formation, on le dit assez, et aussi bien par formation que par tempérament, c'est vrai, il est plutôt un homme de dialogue et de compromis. Bien évidemment, ce compromis ne cède jamais sur l'essentiel. Il faut toujours, toujours le rappeler. Ça, c'est l'école du secrétaire d'État de Léon XIII, Rampolla. On cède, mais pas sur l'essentiel. Et quand il est élu, il veut, en effet, changer de politique. Ça, c'est indéniable. Reprendre les choses à zéro, notamment avec l'Allemagne, mais justement parce qu'il connaît très bien l'Allemagne et il connaît très bien le nazisme et la dangerosité du nazisme. Donc, il veut, comme il le dit lui-même, bon, on va refaire des propositions pour essayer d'apaiser les choses, pour préserver, pour sauver ce qui peut encore l'être. Et puis, il cherche à apaiser aussi les choses avec Mussolini. Alors là, on peut dire aussi, ah ben voilà, Pacelli, pro-nazi, pro-fasciste, etc. Non, pas du tout. C'est qu'il voit bien le danger de l'alliance entre l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie. Et ça, c'est la grande obsession de la diplomatie pontificale. Depuis 1935-36, depuis l'orientation pro-allemande de Mussolini, c'est empêcher l'alignement du fascisme avec le nazisme. Et alors, c'était peut-être une erreur de Pionze. Il voit dans la radicalisation du fascisme et dans l'introduction des lois antisémites l'influence de l'Allemagne nazie. Je pense qu'il sous-estime la dynamique propre au fascisme, la dynamique totalitaire, révolutionnaire du fascisme, dont la papauté s'accommodait très bien. Mais du moment où il y a influence allemande nazie, c'est-à-dire d'un néo-paganisme, la papauté a très bien vu la nature du national-socialisme, qui est un paganisme. Et là, il faut empêcher, il faut essayer de limiter ce rapprochement. Et ça explique aussi tous les efforts de Pie XII pour retenir Mussolini en 1940, entre 39 et 40, pour l'empêcher d'entrer en guerre avec Hitler. Donc oui, en fait, on revient, si vous voulez, parce que la diplomatie pontificale est cyclique, on revient à une tentative d'accommodement avec ces régimes, de baisse des tensions. D'autant plus qu'il ne faut jamais l'oublier, il est élu en mars. Et dès avril, eh bien, c'est l'invasion de la Tchécoslovaquie par la Wehrmacht. Hitler déchire les accords de Munich. Et là, même les Anglais comprennent. Hein, c'est le fameux mot de Chamberlain, « Mr. Hitler is not a gentleman ». Mais ça, les papes le savaient depuis longtemps, hein, que Mr. Hitler n'était pas un gentleman. Hein. Donc c'est le processus qui mène à la guerre, la garantie donnée à la Pologne. Et le contexte change du tout au tout. Et la papauté essaye de faire, parce qu'il y a aussi sa mission, c'est aussi de défendre la paix à un moment où, notamment les Anglais, se préparent à la guerre et se préparent à arrêter Hitler.
Est-ce que Pacelli, donc Pie XII, n'est pas marqué par l'impuissance de Benoît XV ?
Sans aucun doute, puisqu'il était au moment de la rédaction de la note de 1917, du 1er août 1917, qui a été une proposition de négociation qui a été faite par Benoît XV, qui a été envoyée à tous les belligérants, dont la plupart n'ont pas répondu d'ailleurs.
Sauf l'Angleterre protestante.
Sauf l'Angleterre protestante, tout à fait. Eh bien, Pacelli était nonce en Bavière et il avait été associé à la préparation de cette note et il avait bien vu en fait l'impuissance. Le problème de la papauté, et ça apparaît en fait très nettement dès la Première Guerre mondiale, c'est qu'elle a un message qui n'est plus audible. Qui n'est pas audible par les gouvernements, qui n'est pas audible par les peuples, qui sont jetés dans une guerre totale, une guerre de la nation pour la première guerre, une guerre idéologique pour la seconde, et le message de réconciliation, d'arbitrage, de la papauté, de paix n'est évidemment pas entendu. On ne veut pas tout simplement l'entendre. N'oubliez pas Benoît XV qui est traité de pape boche. Par les Français, ou Pilate XV, on l'a surnommé Pilate XV, la papauté, en fait, son message ne correspond plus à l'Europe du XXe siècle, à l'Europe de la guerre totale du XXe siècle.
Alors, nous arrivons peu à peu à la fin de cette émission, Frédéric Lemoyle. Je voudrais faire un bond dans le temps, parce que je ne souhaite pas m'arrêter sur la Deuxième Guerre mondiale, d'abord parce qu'il y a énormément de livres sur cette question, donc vous l'abordez bien évidemment, et je laisse nos auditeurs donc découvrir votre ouvrage « Les divisions du pape » paru chez Perrin. Je souhaiterais me situer en 1978. 1978, c'est l'année de l'élection de Jean-Paul II, un pape polonais, ce qui est un tremblement de terre, bien évidemment, non seulement à Varsovie, mais aussi à Moscou, et plus que jamais à Moscou. Or, Jean-Paul II tient à réorienter la politique du Saint-Siège vis-à-vis de l'Est. Est-ce que ça signifie que Paul VI, par son ostre politique, c'est-à-dire toute la politique qui a été menée vis-à-vis de l'Est, d'ouverture, a été une erreur, ou en tous les cas qu'elle ne portait pas du tout les fruits escomptés?
Je dirais que ça n'a pas été une erreur, mais ça a été l'ostre politique de Paul VI, une politique de dialogue, pour faire vite, hein, en deux mots, une politique de dialogue avec les États communistes d'Europe de l'Est et avec l'URSS. C'était une politique qui correspondait d'abord à la personnalité de Paul VI. Ensuite, qui correspondait à l'époque. On est à l'époque de la détente. C'est-à-dire une époque où on ne cherche plus à gagner la guerre froide, où les grands acteurs de la guerre froide ne cherchent plus à la gagner, mais à la gérer, pour éviter qu'elle ne dégénère. Dans l'idée qu'elle va durer encore pendant beaucoup, beaucoup de temps, dans de très nombreuses décennies. Et donc, Paul VI, qui, ne l'oublions jamais parce qu'on l'oublie trop souvent, a vécu de l'intérieur de la curie la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il est l'un des plus proches collaborateurs de Pie XII. Il a vu toute la difficulté de discuter avec un État totalitaire, la difficulté de sauver ce qui peut l'être. Bien, son idée, c'est que pour empêcher le bourreau de frapper, eh bien, il faut discuter avec lui. Et donc, il s'est engagé avec Monseigneur Casaroli dans une politique de discussion, pas politique, avant tout pastorale, c'est-à-dire avec les gouvernements communistes, notamment pour la nomination des évêques. Ça, c'était vraiment essentiel pour eux. Ils craignaient toujours que la mort d'un évêque entraîne une vacance du siège épiscopal et qu'il ne soit pas remplacé, que le gouvernement communiste bloque le successeur, le renouvellement. Et une église sans évêque, c'est une église qui meurt. Donc, ils se sont engagés dans ces discussions manipulées par l'Union soviétique, qui est, je vous rappelle, maître d'œuvre sur ces questions. Et lorsque Jean-Paul II arrive, il ne revient pas à la politique de condamnation qui avait été celle de Pie XII, notamment en 1949, avec le décret du Saint-Office, qui avait été un décret très très dur, hein, de condamnation, de la collaboration des chrétiens avec les communistes. Il y avait eu des condamnations très 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 nombreuses, très fortes vis-à-vis du communisme. On ne revient pas à cela. Mais Jean-Paul II donne à cette politique de dialogue, n'oubliez pas qu'il nomme Mgr Casaroli l'homme des discussions secrétaire d'État, il donne à l'ost politique un aspect, je dirais, plus musclé, plus offensif. Parce que lui, il vient du monde communiste. Il vient de l'autre côté du rideau de fer. Et il sait que tout est dans le rapport de force. Et qu'il ne va pas lancer une croisade anticommuniste. Aucun pape ne l'a jamais fait. Mais simplement, il va être intransigeant sur la défense de la liberté religieuse. Il connaît très bien le système totalitaire communiste. Il en connaît les failles, ce qui est peut-être pas toujours le cas de Mgr Casaroli, de la curie, encore très italienne. Lui, il en sait, il sait les failles. Et il sait que, eh bien, il faut relancer la bataille contre le communisme, un peu ce que pensait aussi le Ronald Reagan à la même époque. Mais bien évidemment, il ne s'agit pas d'appeler les peuples à l'insurrection. Lorsqu'il va en Pologne en 1979, il n'appelle pas à l'insurrection. Simplement, il appelle à la liberté religieuse. Et aussi, il dit aux Polonais, espérez. N'ayez pas peur, on parle toujours de cette phrase, mais qui est très vraie. N'ayez pas peur, ce qu'il dit en substance, ce régime est abominable, le communisme est contraire à la nature humaine, ça ne tiendra pas, ça passera, il faut tenir bon et tenir par la foi.
C'est là où il les prophète finalement, c'est d'avoir cru à la chute du communisme quand d'autres, non pas d'autres, mais 99% des personnes estimaient que le communisme pouvait vivre encore des dizaines et des dizaines d'années.
Bien sûr. Alors, tout en sachant que quand il arrive sur le trône de Saint-Pierre, il n'imagine pas la suite des événements, bien évidemment. Il n'a pas de plan préconçu, non. Il a su exploiter, et c'est là tout son génie prophétique, il a su bien exploiter la situation du moment. Il n'a pas cru à Gorbatchev. Il a mis beaucoup de temps à croire à Gorbatchev, parce que pour lui, le communisme à visage humain, ça n'existe pas. Il a très bien perçu, en fait, la contradiction majeure de Gorbatchev, qui voulait sauver le régime totalitaire en le réformant, qui voulait sauver le communisme en le réformant. Or, le communisme, ça se réforme pas. C'est impossible. Jean-Paul Denis n'y a jamais cru. D'autant plus qu'au tout début, en 85, hein, il est quand même porté, on l'oublie ça aussi, mais il est porté aussi par des courants très conservateurs au sein du Kremlin, au sein du Politburo. Donc il est très très prudent. Et alors que Mgr Casaroli, lui, plus rapidement a compris le potentiel de réforme que le gorbatchevisme possédait. Mais voilà, il sera très 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 prudent. Mais à partir de 88, alors là vraiment... Oui, il y a vraiment l'espérance de voir ces systèmes totalitaires disparaître. Et on arrive bien sûr à la grande rencontre de décembre 89 où Gorbatchev vient au Vatican.
Alors il nous reste deux minutes, Frédéric Lemoal. Je voudrais citer le cardinal Che Garay que vous citez dans votre conclusion. Vous écrivez, enfin le cardinal Che Garay écrit « Devant un régime athée, il n'y avait pour l'Église que deux attitudes possibles. La première, la lutte ouverte qui, tôt ou tard, emmenait en exil ou en prison. » La deuxième, le compromis, le clair-obscur qui crée parfois des situations à peine tolérables. Et plus loin, vous écrivez, au fond, l'Église a essayé de chercher la moins mauvaise des solutions.
Moi, j'en suis vraiment persuadé. J'aime beaucoup cette phrase, effectivement, parce que, alors, il parlait du communisme, mais en fait, ça s'applique aussi au fascisme et au national-socialisme. Voilà, que faire face à un État terrible ? Parce qu'évidemment, nous sommes des décennies après, on oublie la dureté et le danger que représentaient ces régimes. Par contre, les événements actuels peuvent quand même nous rappeler la difficulté. On se retrouve aujourd'hui face à un nouveau, tout le monde n'est pas d'accord, hein, mais un nouveau mouvement totalitaire ou proto-totalitaire, crypto-totalitaire, qui est l'État islamique. Et on voit la prudence du pape François. Il est critiqué un peu aussi de tous les côtés, parfois avec raison à mon sens, mais on voit la difficulté qu'il a de trouver la juste position. La parole du pape, ce n'est pas n'importe quoi. Souvenez-vous du fameux discours de Ratisbonne de Benoît XVI, lorsque son discours a été en fait tronqué, déformé par les médias. Eh bien, ça a eu des conséquences considérables. Des religieux ont été tués à cause de ce discours. Donc on pourrait ramener ça à Pie XII. On pourrait ramener ça également à Jean-Paul II, lorsque la situation en Pologne est quand même extrêmement dure, à partir de 81 et de l'état d'urgence.
Pie XI ne cite pas le nazisme dans l'encyclique, si mes souvenirs sont bons. Le mot, tout comme François n'utilise pas le mot islam dans ses discours.
Tout à fait. Ça, c'est le langage particulier. C'est le langage particulier du Saint-Siège, qui est toujours le même. Ils ont leur langage à eux. Ils ont cette tradition, en effet, de ne pas nommer l'ennemi. Mais comme l'a dit le cardinal Ratzinger avant de devenir Benoît XVI, de toute façon, le chrétien sait que la victoire est de toute façon déjà acquise, car le Christ a déjà gagné. Les forces de l'enfer ne prévaudront jamais sur l'Église, mais on ne sait pas à travers quelle vicissitude nous devrons cheminer pour arriver à ce but.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Frédéric Lemoal pour cette émission. Donc, je rappelle les références de votre ouvrage, Les divisions du pape, le Vatican face aux dictatures, 1917-1989, un livre paru aux éditions Perrin. Merci beaucoup et à très bientôt. Je donne rendez-vous à nos fidèles auditeurs pour une nouvelle émission des grands entretiens de Storia Voce. À très bientôt.